Vous êtes sur RTL.
Place à l'info, RTL Soir, Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, 2h d'info, nos chroniques de fête, vous êtes comme ça, les mots de 2020 et l'actualité bien sûr. Avec à la une ce soir, la culture qui ne voit pas le bout du tunnel. Les indicateurs sanitaires sont mauvais, la perspective d'une réouverture des cinémas et des théâtres le 7 janvier s'éloigne un peu plus chaque jour. Et la situation est déjà dramatique, la fréquentation des salles de cinéma a chuté de 70% sur l'année. Le secteur pourra-t-il se relever? Où est-ce la victoire des plateformes de streaming? On va en parler dans un quart d'heure avec notre premier invité, Jocelyn Bouissy, le patron des salles de cinéma CGR. L'épidémie repart de plus belle, notamment dans les régions de l'Est, qui pourraient subir un couvre-feu élargi dès samedi. Un coup dur pour les commerçants qui ont rouvert il y a tout juste un mois. Le couvre-feu pour l'instant c'est 20h et pas de dérogation pour la Saint-Sylvestre. 100 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour les contrôles et pourtant certains sont prêts à braver l'interdit. Et puis, la Russie revoit son bilan Covid à la hausse. Il y aurait finalement 3 fois plus de morts qu'annoncés, 186 000 au total. À suivre également, le voisin du petit Tony, relaxé en appel, il n'avait pas dénoncé les mauvais traitements subis par le petit garçon de 3 ans. Et puis Raymond Domenech, nouvel entraîneur de Nantes, accueilli comme un chien dans un jeu de quilles par les supporters, un grand Barnum, vous allez l'entendre. 2020 a-t-elle été l'année des animaux? 40 000 bêtes recueillies à la SPA, une loi en préparation pour sanctionner plus durement les abandons, pour encadrer aussi la vente sur Internet. On en parlera à 18h35 avec Jacques-Charles Fonbonne, le président de la SPA. Et à partir de 19h15, comme tous les soirs pendant les fêtes, votre rétro 2020. Ce soir, la rétro des réseaux sociaux avec la montée de la haine en ligne jusqu'au drame, l'assassinat de Samuel Paty, le calvaire de la jeune Mila et l'Europe qui tente de faire plier les GAFA. La météo, bonsoir Claire Delorme.
Bonsoir Isabelle.
Demain, du froid et de la neige.
Exactement, demain matin, une grande partie du pays sera concernée par une nouvelle perturbation. D'ailleurs, ce sera toute la journée. D'ailleurs, en ce moment, on la retrouve sur le quart nord-ouest avec du vent et de la pluie. Donc pour demain matin, eh bien, elle va concerner la Nouvelle-Aquitaine vers toute la moitié est du pays en passant par les régions Centre et Auvergne. Elle apportera du vent mais aussi de l'humidité sous forme de pluie à de la neige mêlée en plaine, ce qui pourra d'ailleurs blanchir localement les sols mais surtout en direction de la région Grand Est. Attention aux coulées de neige, que ce soit pour les Vosges, le Massif Central ou encore les Pyrénées. Et puis sinon, à l'arrière de cette perturbation, on va retrouver des conditions beaucoup plus variables, variables aussi près de la Méditerranée, avec des nuages encore mais aussi des éclaircies et des températures de saison jusqu'à 6 degrés maximum dans la matinée et 12 degrés dans l'après-midi.
Merci Claire Delorme, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30.
RTL Soir.
Et vous, vous faites quoi pour le réveillon? La question n'a jamais eu autant de sens car cette fin d'année 2020 ne ressemble décidément à aucune autre. Pas de resto, pas de spectacle, pas de boîte de nuit. Pire encore, le couvre-feu qui avait été levé à Noël est maintenu pour la Saint-Sylvestre à 20h. Allez hop, tout le monde à la maison. Les invités, s'il y en a, sont priés de dormir sur place. Un réveillon Covid, sous cloche et sous haute surveillance avec la mobilisation de 100 000 policiers et gendarmes pour empêcher les fêtes clandestines, les rassemblements, les violences urbaines aussi. Malgré cela, certains Français ont bien l'intention de braver l'interdit. Ils veulent faire la fête, quoi qu'il en coûte. C'est sans doute le slogan de l'année. C'est le cas de Morgane, 23 ans. Elle est étudiante et elle va fêter la nouvelle année à Saint-Cloud avec des amis.
Ça fait du bien de se dire qu'on va pouvoir se détendre et penser à autre chose et un peu profiter. On sera à 8 et c'est mes amis du lycée qui viennent. Moi, ça fait longtemps que la fac est fermée, que je vois personne, donc c'est sûr que j'ai besoin de voir un peu de monde. Et on est un peu tous comme ça, à avoir envie de profiter, de se retrouver, même si on sera que 8, que ça sera forcément pas comme d'habitude, mais de fêter un peu. Alors, on a prévu des pizzas, des bières et du cidre. On va faire des jeux, ça c'est sûr, on aime bien faire des jeux. Ça va être difficile de garder les distances. Je pense en fait, surtout nous, vu qu'on est jeunes, c'est plus après la soirée où il va falloir faire attention à qui on voit, et plutôt rester confinés nous-mêmes plutôt que la soirée en tant que telle où il n'y a pas vraiment de risque pour nous.
Du coup, des bisous quand même à minuit?
Non. On a pris l'habitude de ne pas s'en faire, en fait, tout simplement.
Morgane au micro RTL de Thomas Dulin. Assez sage tout de même le réveillon de Morgane, sans bisous, mais des jeunes frondeurs, il y en a, on le sait, prêts à prendre des risques et à en faire prendre aux autres aussi. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Soyons clairs et précis, qu'est-ce qu'on risque si on organise une soirée demain?
Alors, pas grand-chose. Aucune volonté de la part d'RTL, évidemment, d'inciter à la fête, mais la loi ne permet en aucun cas aux gendarmes et aux policiers de rentrer chez vous pour une simple soirée, d'autant moins la nuit. Ce que vous risquez en revanche, c'est une amende pour tapage, justement, qui peut aller jusqu'à 400 150 euros. Et vos invités, eux, sont passibles des 135 euros réglementaires pour violation du couvre-feu s'ils sortent de chez vous avant 6 heures du matin. Alors, un invité nous précise que pour les grosses noubas, les forces de l'ordre pourraient aussi multiplier les verbalisations annexes, par exemple les PV sur les voitures mal garées autour du domicile. Bref, les autorités comptent d'abord sur la dissuasion et la responsabilité de chacun. Pour ce qui est des soirées payantes, en revanche, dans des bars ou dans des lieux publics, l'interdiction est nette et l'arrêt immédiat en cas de contrôle. Mais là encore, les poursuites contre les organisateurs se résument souvent à une amende de 135 euros pour ouverture illégale, si c'est la première fois. Depuis mars, certains ont été poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. Là, c'est passible d'un an de prison, mais de l'aveu même de plusieurs procureurs, la qualification pourrait ne pas tenir in fine devant un tribunal.
Et nous voilà donc prévenus. Merci Thomas Proutot. Un réveillon sous couvre-feu et ça ne va pas s'arranger au premier jour de 2021. Olivier Véran l'a annoncé hier soir. À partir de samedi, le couvre-feu pourrait débuter dès 18h dans une vingtaine de départements de l'Est et du Sud-Est, les plus touchés actuellement par l'épidémie. Concrètement, ça s'annonce comme un sacré casse-tête pour les familles, notamment pour la garde des enfants. Et puis, c'est un nouveau coup de massue pour les commerçants. Ils ont ouvert il y a un mois seulement. Sébastien Duchovitz est le président des Vitrines de Nancy qui regroupe 350 commerces. Il espère, malgré tout, quelques aménagements.
Il est évident qu'on va perdre du chiffre d'affaires, donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour qu'on puisse rattraper en fait cette heure de commerce, voire une heure et demie de commerce, qui est très importante pour nous parce que, en général, après votre journée de travail, vous allez flâner dans les boutiques. Alors ce qu'on va demander bien évidemment à la préfecture, c'est de pouvoir avoir un élargissement, on va dire, de nos horaires. Bien évidemment, on va inciter les commerçants à rester ouverts, par exemple, le temps de midi. Donc pour certains domaines d'activité, peut-être ouvrir plus tôt. Au lieu d'ouvrir à 10h, bah peut-être ouvrir à 9h, voire 9h30. On demandera bien évidemment l'ouverture des dimanches du mois de janvier. Et bien évidemment, on espère que ce couvre-feu qui a été mis en place à partir de 18h n'est pas la dernière mesure avant un confinement global style au 10 ou au 15 janvier si la situation sanitaire venait à se dégrader.
Propos recueillis pour RTL par Dimitri Ramelot. Notez qu'à Annecy, la compagnie d'assurance AXA a été condamnée à indemniser un hôtelier-restaurateur pour ses pertes d'exploitation liées à l'épidémie. C'est une décision inédite jusqu'à présent et elle pourrait faire jurisprudence. Pour l'heure, les élus de la région Grand Est ne sont pas très convaincus par ce couvre-feu élargi dont on parlait. Une demi-mesure, dit la présidente de Meurthe-et-Moselle. Le président de la région Grand Est, Jean Rotner, aurait souhaité lui un reconfinement express quelques jours avant et après le 31 décembre. Et puis la vaccination commencera dès lundi dans le Grand Est sur une trentaine de sites pilotes. Elle a débuté d'ailleurs dès aujourd'hui au CHU de Nice. Dans ce contexte, évidemment, la perspective d'une réouverture des salles de cinéma et des théâtres s'éloigne encore un peu plus. Le monde de la culture espérait pouvoir redémarrer au 7 janvier. C'est la date qui a été fixée pour le prochain point d'étape. Mais ça se présente de plus en plus mal, Christophe Fondio.
Oui, nouveau faux départ en perspective. Le gouvernement prépare les esprits avec un moral des professionnels de la culture qui plonge lassé de ne pas avoir de perspective. Car avec un nouveau report probable des réouvertures de salles de cinéma, de spectacles, théâtres, musées ou cirques, eh bien c'est une nouvelle perte sèche de tickets non vendus qui s'annonce. Aucun rattrapage possible dans le secteur. D'autant que les fermetures de décembre sont dévastatrices pour les trésoreries, pour les théâtres privés régionaux par exemple. La seule soirée du 31 décembre, demain, représente un manque à gagner de 5 à 10% du chiffre d'affaires annuel de ces structures. Donc ne pas rouvrir le 7 janvier va encore compliquer la situation. Pour les musées, certains peuvent compter sur les aides de l'État. Le château de Versailles, par exemple, a vu les trois quarts de ses visiteurs s'évaporer. 70 millions d'euros de pertes cette année, dont un peu plus de la moitié qui seront couvertes par l'État. Enfin, pour les 2000 cinémas de l'Hexagone, l'absence de visibilité après la semaine prochaine risque d'accentuer encore un peu plus le marasme de la profession. Après une année 2020 catastrophique, baisse de 70% de la fréquentation des salles, du jamais vu en 125 ans d'histoire du cinéma.
Merci Christophe Pondio. Effectivement, moins 70% pour les entrées au cinéma. 65 millions de billets vendus contre 213 millions l'an dernier. On en parle dans quelques minutes avec notre premier invité, Jocelyn Boussy, le patron des cinémas CGR. En France, le nombre de contaminations tourne actuellement autour de 15 000 par jour en moyenne. On est bien loin évidemment des 5 000 qu'avait espéré un temps le gouvernement. Le virus a fait plus de 64 000 morts dans notre pays. La Russie, elle, s'est longtemps affichée en bon élève avec 55 000 morts seulement, si on peut dire. Mais ce bilan vient d'être revu à la hausse et pas qu'un peu. Il est désormais trois fois plus élevé. À Moscou pour RTL, Félix Grasso.
En Russie, l'ampleur des dégâts de l'épidémie de Covid est passée sous les radars. La faute à un mode de comptabilité loin des standards internationaux. Les autorités ne prenaient en compte que les morts dont le décès pouvait être attribué après autopsie au seul coronavirus. Avec un total de 186 000 morts et non pas 55 000, comme le montrent les chiffres du gouvernement, on peut espérer désormais que les doléances des syndicats de médecins aient plus de poids. Dans les régions, ils dénoncent depuis plusieurs mois l'absence de matériel de protection pour les soignants, le manque de personnel, des pénuries de médicaments ou la vétusté des hôpitaux sans beaucoup de résultats jusqu'à présent. La Russie est elle aussi sous le coup d'une forte deuxième vague. Depuis plusieurs semaines, on recense plus de 25 000 nouvelles contaminations par jour et pour préserver une économie mise à mal au printemps par deux mois de confinement strict, les autorités n'envisagent pas de répéter l'opération. Elles misent davantage sur la vaccination de masse de la population qui a commencé début décembre, mais comme 38% seulement des Russes disent vouloir se faire vacciner, on peut s'interroger sur l'efficacité de cette stratégie.
Félix Grasso à Moscou pour RTL. On marque une pause et dans un instant, le voisin du petit Tony relaxé, il était poursuivi pour non-dénonciation de mauvais traitements.
RTL Soir. RTL Soir, Isabelle Choquet.
C'était il y a 4 ans, en novembre 2016, à Reims. Le petit Tony, 3 ans, succombait aux violences répétées de son beau-père, Loïc Vental, dans le quartier des Châtillons. Fait rarissime, le voisin qui habitait l'appartement du dessous a été poursuivi pour non-dénonciation de mauvais traitements, car il était impossible qu'il n'ait pas entendu les cris incessants du petit garçon. En première instance, ce voisin avait été relaxé. Et en appel, Cindy Hubert, nouvelle relax.
Oui, pour la justice, ce voisin n'avait pas une connaissance directe et certaine des maltraitances. L'infraction n'est donc pas constituée, d'autant qu'elle exige de ne pas avoir agi. Or, mon client est le seul qui a tenté de briser le silence en avertissant le bailleur, souligne Maître Charbonnier. Selon le juge, tout le monde dans l'immeuble a entendu Tony pleurer à un moment. Alors, s'il fallait poursuivre, pourquoi ne pas faire de même avec d'autres voisins ?
C'est bien le problème de cette infraction où finalement, si on tient compte des déclarations qui sont faites après la découverte des faits, bien évidemment, tout le monde vous dira « si j'avais su, j'aurais pu ». Mais ça, c'est une réflexion qui se fait après coup. Est-ce qu'on peut être sûr que, avant qu'on découvre ce qui se passe pour cet enfant, est-ce qu'il était en mesure de dire ce qui se passait ? Non. Et voilà. Si on ne peut pas le dire, alors on ne peut pas poursuivre.
Les associations de protection de l'enfance ne souhaitaient d'ailleurs pas de condamnation. Certaines espéraient simplement que ce procès est une vertu pédagogique. Rappelez aux Français qu'ils ont obligation de faire des signalements.
Merci Cindy Hubert. C'est désormais officiel, validé et tamponné. Le Royaume-Uni pourra bien quitter l'Union européenne demain soir à minuit avec un accord commercial. Le no deal a été évité avec ce compromis trouvé la semaine dernière à la veille de Noël. Il a été approuvé aujourd'hui par l'Union européenne et par le Parlement britannique. Boris Johnson promet que le Royaume-Uni restera le meilleur allié et le meilleur ami de l'Europe. Conséquence, dès le 1er janvier, les camions de marchandises qui quittent l'Angleterre par le port de Douvres devront montrer patte blanche, pas de droit de douane grâce à l'accord, mais beaucoup de paperasse en plus à présenter à la frontière. Pour faire face, un parking géant et des bureaux de douane sont construits dans le Kent, à une quarantaine de kilomètres de Douvres, dans un petit village rural qui s'appelle Sevington. Et franchement, les habitants ne le vivent pas très bien, Marie Billon.
Aux abords de la petite église médiévale de Sevington, trois chevaux paissent, à peine perturbés par les pelleteuses qui travaillent à quelques mètres. Le parking géant est enfin presque prêt, constate Sharon Swandale. Elle habite dans un petit cottage à quelques mètres du chantier.
Chez moi, je sens les vibrations causées par les travaux. Nous sommes un petit village et nous étions entourés de champs, entourés de haies remplies d'oiseaux qu'on entendait chanter. Mais maintenant, ce sont les camions qui reculent qu'on entend. Ils ont condamné tous les chemins piétons, donc nous sommes comme enfermés dans notre village.
Pendant les embouteillages monstres générés par la fermeture des frontières ces derniers jours, certains villageois sont montés sur un petit pont pour faire descendre au bout de ficelle des paniers de nourriture pour les routiers coincés. Pourtant, ils en ont assez, les locaux, d'être pris dans la tourmente des camions bloqués. Paul Bartlett, élu local, les comprend.
Tout ce qui est construit ici est là pour que s'il y a des files de poids lourds à Douvres, les locaux et les commerces des environs soient le moins touchés possible.
Les résidents regrettent cependant que le Kent est en train de perdre, disent-ils, son surnom de jardin d'Angleterre pour devenir le parking de l'Angleterre.
Marie Billon dans le Kent pour RTL. Direction Nantes maintenant. Nantes, où l'on voit réapparaître Raymond Domenech, désormais entraîneur des Canaries. Lui qui n'avait pas coaché une équipe de foot depuis les Bleus et le fiasco de Nysna. Il aurait pu espérer un retour paisible, mais c'est raté, car les supporters nantais sont très remontés contre le président du club, Valdemar Quitta, le club qui végète à la 16e place du championnat. Du coup, pour son premier entraînement, coach Raymond a reçu un accueil, disons, à grand spectacle, Philippe Audouin.
Raymond Domenech a trouvé plus impopulaire que lui. Ce matin, une demi-heure après le début de sa première séance avec le FC Nantes, une poignée de supporters a sorti une sono humoristique au bord du centre d'entraînement. Principale cible, le président propriétaire du FC Nantes, Valdemar Quitta.
Mesdames et messieurs, bienvenue au Quitta Circus. Le Quitta Circus vous propose de nouveaux numéros incroyables. En premier lieu, comment gagner du pognon sur un joueur belge de 18e division ?
Mais au-delà de ce ras-le-bol face au déclin de leur club, les supporters nantais, globalement, n'approuvent pas la venue de Raymond Domenech.
C'est un coup médiatique, ni plus ni moins. Un personnage à part, très égocentrique.
C'est simplement le coach qui a été à une époque le plus détesté en France, avec le président le plus lamentable qu'on ait jamais eu en lien.
Pour l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, la mission maintien en Ligue 1 avec Nantes débute dans un drôle de climat.
Raymond Domenech va nous expliquer sa vision du football. De quoi nous faire marrer pour les prochains week-ends au Quitta Circus.
Le Quitta Circus des supporters de Nantes au micro RTL de Philippe Audouin. Et puis on a appris cet après-midi la mort de Claude Bolling, pianiste, chef d'orchestre et grand compositeur. Il avait 90 ans. On lui doit le célèbre générique de la série Les Brigades du Tigre et aussi la bande originale d'une centaine de films comme Flick Story, Le Magnifique ou encore Borsalino avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Musique ultra célèbre de Borsalino, signé donc Claude Bolling, qui vient de disparaître à l'âge de 90 ans. On marque une pause dans RTL Soir et on retrouve comme promis notre invité Jocelyn Bouissy, patron des salles de cinéma CGR.
RTL Soir.